Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mes amis, ça doit être clair. Prenons la parole de Dieu au sérieux, je vous en supplie. Lisons ce texte. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit qui habite en vous, le début de Romains 8 dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le terme « fils » qui est utilisé ici exprime une position, une qualité officielle de membre de la famille de Dieu. Avec tous les droits inhérents à cette qualité, héritage et tout le reste, n'est-ce pas? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba !» Père. Shocking. Shocking parce que c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Et il n'y avait rien de plus déplaisant au regard d'un juif que de concevoir que l'on puisse prier Dieu autrement qu'en hébreu. Utiliser l'araméen, la langue familière, la langue des relations humaines, du commerce, de la vie dans le village, utiliser l'araméen pour parler à Dieu, inconcevable. Il n'y a que l'hébreu, comme autrefois le latin, n'est-ce pas? Mais non. Et transposé dans notre temps, eh bien, vous pourriez mettre le mot en créole. Intimité avec le Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons vivre cette intimité avec Dieu dans la prière. Et nous avons ce témoignage intérieur par le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfant de Dieu. Et le mot « enfant » ici est très intéressant parce qu'il exprime l'intimité avec le Père. La relation entre l'enfant et ses parents. Voilà tout ce que fait le Saint-Esprit quand il entre dans notre vie. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et l'apôtre Paul, qui a derrière lui, en tout cas au moins 25 ans de vie et de service pour son Seigneur, sait de quoi il parle. Il sait que la vie chrétienne authentique est un chemin difficile parsemé de souffrances. Qu'il n'y a pas de croissance sans souffrance. Que nous sommes disciples de Jésus-Christ dans un monde hostile, en but aux attaques de la puissance des ténèbres de ce monde invisible. Et que nous sommes en lutte, comme nous l'avons dit, avec ces pesanteurs de notre propre moi, n'est-ce pas? Mais en disant cela, l'apôtre Paul introduit déjà le thème de la glorification. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le disciple de Jésus-Christ authentique est un homme, une femme, qui accepte pleinement que la souffrance sous toutes ses formes soit inscrite dans le programme de la vie chrétienne. Et je suis toujours frappé par la densité de souffrance que respirent les Écritures. non pour nous inviter à une sorte de masochisme comme si nous pouvions trouver un quelconque plaisir à souffrir, mais parce que Dieu nous montre que il n'y a pas de transformation à la ressemblance de Jésus-Christ, son Fils, qui n'emprunte un chemin de souffrance. Et souvent à cause de nos cœurs, à cause de la raideur de nos nuques, à cause de nos résistances à l'action du Saint-Esprit dans notre vie, n'est-ce pas ? Notre propension, notre tendance à la résistance, à l'opiniâtreté, à la désobéissance facile, à l'esprit d'indépendance. Que de souffrances nous seraient épargnées si véritablement nous vivions selon ce changement de roi, changement de propriétaire, changement d'époux. Et avant de dire quelques mots sur la glorification, j'aimerais que nous reprenions Galates 5, versets 24 et 25, qui peut servir de remarquable conclusion à ce que nous avons dit sur la sanctification. Galates 5, 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. La chair, le moi, l'hippopotame, moi, a été mise à mort au moment de la mort de Christ sur la croix. La chair ne règne donc plus sur nous. Elle ne nous tient plus en esclavage. Prenons cette illustration. Elle est comme un poulet dont on a coupé la tête. La chair a été atteinte mortellement. Vous savez ce qui se passe quand on coupe la tête d'un poulet. Je me souviens, le dernier poulet dont j'ai vu la tête subitement coupée, c'était au Liban, dans les montagnes du Liban. Et je me souviens, j'ai encore l'image sous les yeux, quand ce bonhomme a attrapé le poulet, et puis alors il avait l'habitude, hein, un coup, là, hop là, c'est parti tout seul. Et j'ai vu le poulet qui est parti dans toutes les directions, dans de ces zigzags absolument incroyables. Il n'y avait plus de tête. Elle courait encore. Ben ça, c'est la chair. Elle n'a plus de tête. Elle a été mise à mort dans la mort de Christ sur la croix. Mais elle court encore. La chair a été mise dans le cercueil. Mais de temps en temps, vous avez le cercueil qui, le couvercle qui soulève. Il y a déjà un certain nombre d'années, je donnais une série de conférences sur l'Épître aux Romains au cœur de la Côte d'Ivoire. Et il se trouve que sur cette station missionnaire où une convention avait été organisée, il y avait un petit peu partout dans les coins, tenez-vous bien, des cercueils, bien sûr vides, mais prêts à l'emploi. C'était une des manières dont l'Église du coin, l'Église évangélique, essayait de gagner l'argent, de quoi faire fonctionner son témoignage. On fabriquait des cercueils. Alors partout où vous alliez, sur cette station, vous aviez ici et là des cercueils qui étaient prêts à l'emploi. Alors quand je suis arrivé à Romains chapitre 6, j'ai demandé pendant une interruption de séance à plusieurs jeunes de venir déposer un de ces cercueils juste devant l'estrade Ah, mes amis, il fallait voir la tête des participants à cette convention quand ils sont rentrés après l'interruption et qu'ils ont vu le cercueil. Alors, il y a une chose que je n'ai pas osé faire. J'avais envie de le faire. Mais je ne tenais pas à ce qu'il y ait une crise cardiaque. J'avais envie de demander à quelqu'un de se mettre dans le cercueil. Et qu'au bout d'un moment, à un signal donné, pendant que j'allais expliquer que le mort, il gigote encore un peu. Celui qui était dans le cercueil, il commence à bouger un petit peu. Vous imaginez ce qui se serait passé. Alors je leur ai expliqué, mais sans faire la démonstration. Et je pense qu'ils ont compris. Eh oui, le poulet est décapité, mais il court encore. Mais à nous, de ne pas permettre au péché de se développer comme il se développe trop facilement dans nos vies. Un homme de Dieu a dit, une des raisons pour lesquelles le péché se développe si bien, c'est qu'il est traité comme un chou à la crème plutôt que comme un serpent à sonnette. Ça, c'est notre problème. Que nous traitions avec une telle légèreté le péché qui a cloué Christ sur la croix. Que nous fassions finalement comme si rien ne s'était passé sur la croix au niveau de notre vieille nature. Et que nous ouvrions le cercueil pour donner de bons casse-croûtes à la vieille nature, n'est-ce pas? C'est ce qui a fait dire à un théologien évangélique de ce siècle, le premier secret essentiel de la sainteté est le degré et la netteté de notre repentance. Si des péchés obsédants noircellent sans cesse, voici la raison. Soit nous ne nous sommes jamais vraiment repentis, soit nous n'avons jamais renouvelé notre repentance initiale, parce que, n'est-ce pas, il faut, jour après jour, revenir au pied de la croix. Nous avons acquis au moment de notre justification le pardon juridique de Dieu. Mais jour après jour, j'ai besoin du pardon paternel de Dieu. C'est comme si, poursuit cet homme de Dieu, ayant cloué notre ancienne nature sur la croix, nous retournions sans cesse avec nostalgie au lieu de son exécution. Nous commençons alors à la choyer, à la caresser, à souhaiter qu'elle soit relâchée, et même à essayer de la descendre de la croix. Or, il nous faut apprendre à l'y maintenir. Quand une pensée impure, malveillante ou empreinte de jalousie envahit notre esprit, nous devons la chasser sur le champ. Il est fatal de commencer à l'examiner et à nous demander si nous allons lui céder ou non. Nous lui avons déclaré la guerre et par conséquent, nous n'allons pas reprendre les négociations. Nous avons réglé la question une fois pour toutes, nous n'allons donc pas rouvrir le débat. Nous avons crucifié notre nature pécheresse aussi. Ne retirons jamais les clous. Un des hommes de Dieu britanniques préférés dans mon ministère, qui est auprès du Seigneur maintenant, a écrit des choses absolument remarquables sur ce sujet, consacrant toute une série de volumes très importants à cette seule épître aux Romains. Et il écrit notamment ceci, « Si vous vous contentez de réprimer ce premier mouvement de péché se manifestant en vous, il reviendra très probablement avec d'autant plus de force. À cet égard, je suis d'accord avec la psychologie moderne. Réprimer ses sentiments n'est jamais bon. Mais alors que faire? Me direz-vous? Je répondrai, quand vous sentez ce premier élan du péché en vous, redressez-vous et dites, il n'est pas question que j'accepte cela dans ma vie. Dénoncez-le et dites, cette pensée est mauvaise, elle est vile, semblable à celle qui fit bannir le premier homme du paradis. Regardez-la en face.
dénoncez-la, renoncez-y, haïssez-la pour tout ce qu'elle représente. Alors, vous aurez vraiment réagi comme il convient. Il ne faut pas simplement la refouler dans un esprit de crainte, de façon timorée. Sortez-la, affrontez-la, analysez-la, puis dénoncez-la pour tout ce qu'elle est jusqu'à ce que vous la haïssiez. Nous devrions affronter notre péché courageusement, le frappant à la tête. Le maîtriser partiellement ne suffit pas. Il nous faut l'exterminer, le tailler en pièces, chercher au moyen de la grâce et de la puissance de l'esprit à le rendre exsangue de son poison mortel. Mes amis, nous sommes engagés dans une guerre. Et nous devons prouver que le péché a été vaincu. Et pour le prouver, il ne suffit pas simplement de dire « Seigneur, tu vois, j'ai tel problème dans ma vie, et puis eh ben, j'attends. Je vis dans l'impureté, mais j'attends que tu m'en délivres. » Tout récemment, en métropole, une sœur qui est dans le service de Dieu à plein temps est venue nous trouver. Et elle a partagé avec nous le combat terrible qu'elle vivait parce que harcelée par un jeune homme, là entre 25 et 30 ans, non converti, pour lequel se développaient dans son cœur des sentiments. Et elle finissait par ne plus dormir la nuit. Pourquoi ? Parce que elle se laissait prendre dans l'engrenage de ses sentiments. Et lorsque nous l'avons rencontrée, qu'elle est venue pour un appel au secours, elle nous a laissé entendre qu'elle était sur le point de céder. Et son combat était gigantesque. Et j'ai dû lui dire qu'il fallait prendre le problème à bras le corps et qu'il fallait le faire immédiatement. Qu'il fallait qu'il y ait immédiatement une rupture avec ce jeune homme. Une prise de position. Parce que si elle continuait comme ça, à essayer d'échapper mollement, eh bien ce serait la catastrophe dans sa vie. Elle nous a quittés, semblait-il décidée à suivre ce conseil radical, pour me téléphoner quelque temps plus tard en me disant « Je n'ai pas encore fait ce que vous m'avez dit. » Et une fois de plus, j'ai été coincé. J'ai été coincé par ce jeune homme et ça a été terrible. Et je dis « Mais ne tardez plus. Si vous tardez encore un seul instant, mais vous courez tout droit à la catastrophe, je vous en supplie. Aujourd'hui même, au moment où vous allez raccrocher le téléphone, vous prenez du papier, vous prenez un stylo, vous écrivez une lettre extrêmement claire et nette, vous refusez de le voir, vous lui dites votre position en Christ. Qu'il y a une rupture nette. On ne plaisante pas avec ce genre de choses, mais vous jouez avec de la dynamite, c'est tout votre avenir qui se joue. Et enfin, par la grâce de Dieu, elle a compris. Et immédiatement après le coup de téléphone, elle a fait ce qu'il fallait faire. Et nous l'avons vu quelques jours plus tard, elle nous disait sa libération intérieure. Bien sûr, elle a été injuriée, etc. Elle était libérée. Mes amis, lorsque nous sommes à Christ, nous ne jouons pas avec le péché. Que d'adultère. que de mariage contre la volonté de Dieu, que de relations de type homosexuel et tant d'autres choses se sont développées parce qu'il n'y avait pas eu une prise de position claire et nette au départ. Ne nous croyons pas en nous-mêmes suffisamment forts pour traiter avec le péché. Le Saint-Esprit collaborera avec nous dans la mesure où nous prenons nos responsabilités. L'auteur que je citais tout à l'heure affirme ceci avec justesse. « Je ne connais aucun texte de l'Écriture et je sais de quoi je parle, qui me disent d'amener mon péché, ce point noir qui m'affecte tant à Dieu dans la prière, pour lui demander de m'en délivrer, puis rester dans la foi qu'il le fera. Cet enseignement est souvent exprimé comme suit. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est constamment vaincu par un certain péché, je pense que votre seul espoir est d'apporter cela à Christ et il vous en délivrera. Mais que dit l'Écriture dans Éphésiens 4, 28 en s'adressant à celui qui se livrait constamment au vol, à celui qui s'appropriait tout ce qui lui plaisait? Que devrais-je dire à un tel homme? Dois-je lui dire « Apporte ce péché à Christ et demande-lui de te délivrer » Non. L'apôtre Paul lui dit plutôt que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est tout. Qu'il arrête. Et s'il s'agit de débauche ou d'adultère ou de pensée de convoitise, là encore, mettez-y un terme, dit Paul. Il ne dit pas « Allez et priez que Christ vous libère ». Non. Vous cessez cela de suite, dit-il, comme il convient à des enfants de Dieu. Mes amis, si nous sommes enfants de Dieu, soyons conséquents avec nous-mêmes. Et ne venons pas nous plaindre ensuite à l'Église, auprès des responsables, si nous n'avons pas fait ce que Dieu nous demandait. Nous avons, par le Saint-Esprit, tout ce qu'il nous faut pour avoir la victoire. Le problème, c'est est-ce que nous la voulons vraiment ou est-ce qu'au fond de nos cœurs, nous chérissons encore le péché? Enfin, nous arrivons à la quatrième roue du salut. La glorification. Chapitre 8, verset 18 à 39 de Romains, le fait de l'édifice du salut. Un coup d'œil sur l'avenir qui nous attend. Et au verset 18 de Romains 8, Paul dit tout d'abord, j'estime, et le mot estimer, c'est l'équivalent de considérez-vous comme mort de Romains 6. C'est-à-dire que c'est un terme mathématique. C'est un terme appartenant au langage comptable. J'estime, je juge, je compte, après calcul, voilà le résultat. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et cette expression ne saurait être comparée à, en fait, dans la langue grecque, elle utilise un terme qui fait allusion à l'usage d'une balance. Si sur un plateau de la balance, je place toutes les souffrances de ma vie de disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, tout au long de mon existence en tant que disciple de Jésus-Christ. La gloire à venir étant placée sur l'autre plateau de la balance, mes amis, le plateau sur lequel sont les souffrances va monter plus léger qu'un souffle, tellement la gloire à venir sera extraordinaire. Et mes amis, nous l'avons dit tout à l'heure, l'apôtre Paul avait derrière lui des souffrances. Lisez 2 Corinthiens 11 et tant d'autres, 2 Corinthiens 6 également. J'estime, J'ai calculé que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et puis Paul, de la part de Dieu, va évoquer trois soupirs. Trois gémissements du temps présent. Tout d'abord, le gémissement de la création. Et quand il évoque ici la création, c'est la nature tout entière. La nature tout entière, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la révélation des fils de Dieu, les fils de Dieu ici dans le texte, c'est nous. Le dévoilement des enfants de Dieu parvenus à l'épanouissement éternel. Eh bien, la création, dit l'apôtre Paul de la part de Dieu, elle attend actuellement dans des soupirs terribles. Et mes amis, si nous ne comprenons pas les soupirs de la création aujourd'hui, avec la vache folle, la fièvre afteuse et tout le reste, nous n'avons rien compris. Nous sommes dans une création qui est en pleine souffrance à cause du péché de l'homme. Et cette création soupire. Elle attend que l'Église de Jésus-Christ soit arrivée au summum, au stade ultime, qu'elle soit dans la gloire, que le dévoilement du plan de Dieu porté à son paroxysme soit enfin quelque chose de visible pour elle. Car la création a été soumise à la vanité, oh oui, au nom de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et nous qui croyons à un véritable millénium, à une sorte de visitation à un moment donné de l'histoire, d'une sorte de terre réconciliée, avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, eh bien, nous avons là un très beau texte qui va dans ce sens. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. La création soupire. La création a un ardent désir, mais la nouvelle création soupire elle aussi, nous, qui avons les prémices de l'Esprit. Les prémices. Nous avons un avant-goût. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit fait déjà des choses extraordinaires dans nos vies. Mais ce n'est rien, ce n'est qu'un petit avant-goût de ce qui nous attend. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et le corps est là, à nouveau, vous voyez, il est partout dans ces 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Nous attendons la rédemption, le rachat, l'adoption, la rédemption de notre propre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas toujours très brillant au niveau de notre corps. Nous soupirons dans notre corps. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais notre corps, lui, il incline vers la terre. Et même lorsque nous prétendons croire à la guérison de nos corps par la foi, eh bien les champions qui croient le plus à la guérison de nos corps par la foi, mes amis, eh bien ils vieillissent aussi. Et ils meurent aussi. Et 9 fois sur 10, ils meurent de maladie. J'ai relevé Oh, avec tristesse. Les visions de plusieurs visionnaires prétendant avoir vu pour eux le ciel et qui racontaient cette histoire, l'un d'entre eux dit avoir fait au moins 3 visites au ciel, toutes les 3 avant l'âge de 12 ans, et il est maintenant, encore actuellement, pasteur d'un mouvement charismatique. Et il raconte de manière détaillée ses multiples visions au ciel. Et dans ses visions, il informe qu'il y a au ciel des sortes de vastes entrepôts remplis de membres humains qui attendent que les personnes sur la terre les revendiquent avec foi. Vous avez besoin d'une nouvelle paire d'yeux ? Eh bien, d'après lui, vous pourriez vous les procurer auprès des entrepôts célestes si vous aviez suffisamment de foi. Et ce pasteur aurait fait avec Jésus une visite guidée de ces magasins situés à quelques centaines de mètres du trône de Dieu, littéralement. Et il décrit la scène, écoutez. Nous sommes entrés dans le premier entrepôt. Comme Jésus fermait la porte derrière nous, je regardais à l'intérieur, j'étais absolument choqué. Sur un côté du bâtiment étaient disposés des bras, des doigts, des jambes accrochés le long des murs et d'autres parties du corps. Cependant, la scène tout entière avait l'air complètement naturelle et pas du tout morbide. De l'autre côté du bâtiment, j'aperçus des petits paquets d'yeux, des yeux, soigneusement rangés. Il y en avait des verts, des bleus, des bruns, etc. L'entrepôt semblait contenir toutes les parties du corps humain dont les gens sur Terre peuvent avoir besoin. Mais malheureusement, ils n'ont pas réalisé que ces bénédictions les attendaient au ciel. Et elles sont autant pour les saints que pour les pécheurs. Et ce pasteur, entre guillemets, de dire, mais Jésus dit, voici, tout cela représente les bénédictions qui n'ont pas été revendiquées. Cet entrepôt ne devrait pas être plein. Il devrait se vider tous les jours. Les gens devraient venir ici avec foi et repartir avec les membres dont ils ont besoin pour eux-mêmes et pour ceux de leur entourage. Mes amis, mais cet ami n'a pas lu Romains 8. Il n'a pas lu Romains 8. Nous attendons avec soupir la rédemption de notre corps. Et cette rédemption de notre corps, ce sera cette résurrection. Résurrection des corps. Parmi ceux qui avaient été condamnés à mort durant le règne sanguinaire de Marie d'Angleterre, il y avait 2 chrétiens. L'un était boiteux, l'autre aveugle. Alors que les flammes commençaient à lécher leur corps, le boiteux jeta sa béquille et cria à son compagnon « Courage, mon frère !» C'est ici-bas que nous allons laisser nos faiblesses. Et vous savez qu'il y a une question qui se pose assez fréquemment, mais quel sera l'aspect des corps nouveaux qui nous seront donnés ? Un évangéliste abordait ce sujet délicat et fut alors interpellé assez vivement par un auditeur qui était manchot et qui lui dit « Et moi donc, vais-je avoir mes 2 bras à la résurrection ?» Et l'homme de Dieu ne se laissa pas décontenancer et répondit sans hésiter, « Insensé, quand tu plantes des moitiés de pommes de terre, est-ce qu'il pousse des moitiés de pommes de terre ou bien des tubercules entiers ? C'est bien clair. Quand on plante des moitiés ou des quarts de pommes de terre, ce sont des pommes de terre complètes qui sortent du sol, n'est-ce pas ? Que l'on récolte. » Ainsi, en sera-t-il de la résurrection ? Et nous avons ce texte extraordinaire. Permettez que nous le lisions encore. Je ne veux pas vous retarder, mais je pense à 1 Corinthiens 15. Et en particulier au verset 42 à 44. Ainsi, En est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et quelqu'un de commenter ce beau texte en écrivant ceci, le corps ressuscité est semé, puis il lève telle une graine. Les cimetières sont les champs de semences de la résurrection. Mais le corps ressuscité est un corps nouveau, transformé dans tous ses aspects. Il a été semé dans la mort et dans la détérioration. Il ressuscite pour être impérissable. Il est enterré comme une chose souillée, peu glorieuse, que l'on cache sous la terre. Il ressuscite glorieux. Lorsqu'il est mis au tombeau, il est mort, inanimé, complètement impuissant. Mais quand il ressuscite, il sera puissant. Il est enfoui sous terre comme de la matière sans vie. Il ressuscitera plein de vie et spirituel. Je pense à ce croyant enthousiaste qui fut vaincu, entre guillemets, dans sa lutte contre le cancer. Mais on distribua à son ensevelissement ce poème. Le cancer est si limité. Il ne peut paralyser l'amour. Il ne peut ébranler l'espérance. Il ne peut attaquer la foi, il ne peut saper la paix, il ne peut détruire la confiance, il ne peut tuer l'amitié, il ne peut chasser les souvenirs, il ne peut faire taire le courage, il ne peut envahir l'âme, il ne peut raccourcir la vie éternelle, il ne peut éteindre l'esprit, il ne peut amoindrir la puissance de la résurrection. Et je pense à ce pasteur qui, un jour, apprit qu'il avait une maladie dans sa phase terminale. Et le dimanche suivant, il dit à son assemblée, « J'ai fait 3 kilomètres à pied du bureau du médecin à la maison. J'ai regardé la montagne majestueuse que j'aime tant. J'ai regardé la rivière dans laquelle j'aime tant m'amuser. J'ai regardé les arbres majestueux qui sont comme la poésie de Dieu pour mon âme. Le soir venu, j'ai contemplé l'étendue du ciel où Dieu avait allumé les lampes. Et j'ai dit, je ne te verrai peut-être plus beaucoup de fois, mais montagne, je serai vivant quand tu ne seras plus. Rivière, je serai vivant quand tu cesseras de te déverser dans l'océan. Étoile, je serai vivant quand vous tomberez du ciel lors de la destruction de l'univers. » Et je pense à cette inscription sur une pierre tombale, cette épitaphe, le corps d'un tel imprimeur. Comme la couverture d'un vieux livre déchiré et dépouillé de ses caractères et de sa dorure, ce corps gît ici. Nourriture pour les vers. Mais le travail ne sera pas perdu, car il réapparaîtra comme il l'a cru, en une édition nouvelle et plus élégante, révisée et corrigée par l'auteur. Nous attendions la rédemption de notre corps, mes amis. Et je termine avec cette tombe très curieuse à Hanovre, en Allemagne, dans le cimetière de la ville. Une comtesse chrétienne, authentique enfant de Dieu, y a été enterrée. Son mari était un athée convaincu. Il voulait que cette tombe reste un monument permanent de sa conviction qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de résurrection des morts. Il donna donc l'ordre qu'on serre fortement les marbres de la tombe avec de gros fils de fer et que l'on grave sur la plaque ces mots « Cette tombe est ma propriété et je ne permets à personne de l'ouvrir à tout jamais. » Mais une graine est tombée, peut-être du bec d'un oiseau, dans une petite fente entre les marbres du monument. Elle a pris racine, elle a grandi. La force de vie qui se trouvait dans cette graine a déplacé peu à peu les marbres et cassé les fers. Aujourd'hui, un bel arbre ombrage la tombe décellée de la comtesse et l'inscription stupide de son époux. Aucune chaîne de fer ne peut arrêter la résurrection des croyants. Offrez vos corps. Un jour, vous et moi, nous aurons un corps nouveau. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire?
Est-ce que ça ne vaut pas le coup de souffrir avec lui, d'être porté par lui dans nos souffrances, de le servir dans cette perspective absolument extraordinaire? Et vous permettez, parce qu'alors vous allez faire un de ces dodos cette nuit, comme peut-être jamais durant ces dernières semaines, on ne peut terminer la glorification sans lire ensemble. Romains 8, verset 28. Soupir de la création, soupir de la nouvelle création, soupir du Saint-Esprit, au verset 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand nous ne réussissons plus à exprimer certaines choses, le Saint-Esprit, lui, sait encore l'exprimer. Et Dieu, Dieu le Père comprend, Dieu le Saint-Esprit. Et alors on arrive à ce verset 28, nous savons. Il y a un tas de choses que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, c'est ce qui est dit un peu plus haut. Nous ne savons pas, verset 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais nous savons, du reste, que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Juste une remarque. Nous savons est en un, en tête, dans la phrase. Mais dans le texte grec, ensuite, c'est ceux qui aiment Dieu qui viennent. Nous savons. Et ensuite, ceux qui aiment Dieu. C'est ça ce qui est important. Pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses travaillent ensemble à leur bien. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La glorification à venir est inscrite dans l'éternité passée. C'est dans le plan de Dieu. C'est chose certaine. C'est inscrit dans l'éternité passée. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un avec Dieu, c'est la majorité. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mes amis, en Christ, nous avons toutes chose pour nos besoins. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Quatre avocats qui se lèvent dans la personne de Jésus-Christ. Premièrement, premier avocat, Christ est mort. Deuxième avocat, bien plus, il est ressuscité. Troisième avocat, bien plus encore, il est à la droite de Dieu. Quatrième avocat, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sept ennemis violents qui vont se succéder maintenant. Sera-ce la tribulation, les difficultés liées aux circonstances extérieures accablantes? L'angoisse, littéralement, l'étreinte du cœur. La persécution, et ici la persécution juridique, quand on est traîné à cause de sa foi devant les tribunaux. La faim, la nudité, le péril, l'épée, et ici le terme indique que c'est l'épée qui conduit à la peine de mort, peine capitale à cause de sa foi. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Est-ce que ces sept ennemis pourraient nous séparer de l'amour de Christ? Mais, dans toutes ces choses, nous sommes hyper conquérants par celui qui nous a aimés. Chers amis, nous ouvrons nos Bibles, comme chaque soir, pour relire encore une fois Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Ce texte dont nous sommes en train de considérer pour le quatrième soir successif, la toile de fond que constituent les 8 premiers chapitres de cet épître aux Romains. Je lis au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez continuellement métamorphosés par le renouvellement de la mentalité, de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans l'épître de Paul aux Galates, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, nous lisons les versets 16 à 25. Galates 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, marchez continuellement par l'esprit, sous l'impulsion de l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent habituellement, régulièrement, de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous considérons donc, depuis mardi soir, chacune de ces quatre roues indispensables de la voiture du salut. Quatre roues qui nous sont décrites dans les 8 premiers chapitres de cette cathédrale de la foi chrétienne qu'est l'épître de Paul aux Romains. Nous avons remarqué que ces
Et quatre roues vont par paire. Il y a tout d'abord les deux roues de la condamnation et de la justification. Deux déclarations. Deux déclarations extrêmement solennelles. La seconde ayant absolument besoin de la première pour avoir toute sa valeur. Condamnation, notre condamnation à tous, notre besoin absolu de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. La justification, c'est-à-dire l'entrée dans le salut, les fondations de la vie chrétienne, les racines de l'arbre chrétien. Dans la mesure où nous plaidons coupables, où nous reconnaissons de tout notre être cette déclaration de condamnation absolue qui nous sépare de Dieu pour l'éternité, alors nous sommes mûrs pour recevoir, par un acte de foi personnel, la déclaration qui fait de nous des hommes et des femmes vus justes au regard de Dieu, parce que vu au travers de la justice parfaite de son Fils Jésus-Christ, lui qui a pris sur lui non seulement nos péchés, mais qui sur la croix s'est occupé aussi de l'usine qui produit les péchés, qui s'est occupé de notre nature pécheresse, qui est allé frapper l'épicentre du drame que nous voyons non seulement s'étaler trop souvent dans nos vies, mais dans ce monde loin de Dieu aujourd'hui. Et puis ensuite, les deux autres roues allant par paire, chapitres 6 à 8, la sanctification qui nous a intéressés déjà longuement hier soir et que nous allons achever d'approcher dans cette première partie, et la glorification, œuvre de Christ en nous. La vie chrétienne, dans son développement actuel et dans son épanouissement éternel. La sanctification, la sainteté de vie, cette croissance d'une qualité de vie nouvelle, avec toutes les provisions qui sont nôtres, que Dieu a préparées, a prévues, qui sont contenues dans le message même du salut. Nous avons considéré hier soir le principe de la sanctification. À partir des 11 premiers versets du chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Et nous avons souligné avec force que la pratique habituelle du péché est inadmissible chez le croyant. Et que le drame de l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui en Martinique comme ailleurs, c'est notre insensibilité à la gravité du péché. Nous sommes saisis par le relativisme ambiant qui considère que les attitudes, Les pensées, les réflexions, les comportements les plus contradictoires sont tous valables aux yeux de Dieu. Nous pouvons faire et dire tout est le contraire de tout et vivre une sorte de vie chrétienne incohérente. Comme si Dieu vivait en contradiction avec lui-même. Nous avons comparé hier soir le péché à cette lèpre qui insensibilise, qui s'attaque à notre système nerveux central spirituel, au point que l'ennemi peut en quelque sorte dévorer nos membres, comme les rats dévorent les pieds insensibilisés, les extrémités d'un lépreux, n'est-ce pas, sans qu'ils s'en rendent compte. Nous sommes morts au péché. Jésus-Christ a payé le salaire que réclamait le péché. Et le salaire que réclamait notre péché, c'est la mort. Et le Fils de Dieu, dans sa parfaite sainteté, a accepté volontairement, par amour pour nous et par obéissance à son Père, de mourir en quelque sorte à notre place, de payer notre dette à notre place. Nous sommes morts au péché. C'est un fait historique, acquis, accompli une fois pour toutes. Voilà ce que nous avons développé hier soir. J'ai été et je suis crucifié avec Christ. Jour après jour, je vis dans le prolongement de quelque chose qui s'est passé d'absolument extraordinaire sur la croix il y a bientôt 2000 ans. Et puis, nous avons abordé la pratique de la sanctification. Où Dieu nous dit, dans Romains 6, 12 à 7, verset 6, « Devenez ce que vous êtes. Vous êtes morts au péché. Et bien maintenant, dans votre vie de tous les jours, manifestez cette mort au péché. Dans vos choix, comme nous allons le voir. Vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. Vous vivez de la vie de Christ. Eh bien, revêtez-vous quotidiennement de cette vie nouvelle. Et il y a dans ce chapitre 6, c'est au début du chapitre 7, de l'Épître aux Romains, trois aspects de notre nouvelle relation avec Christ et de leurs conséquences dans l'utilisation de notre corps, parce que nous sommes toujours dans notre thème « Offrez vos corps ». Au chapitre 6 et dans les versets 12 à 14, il nous est dit tout d'abord, l'apôtre Paul dit « Mais vous, disciples de Jésus-Christ, vous avez changé de royaume. Nous avons changé de royaume, que le péché ne règne donc point dans votre corps, il est là le corps, dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas continuellement vos membres au péché, comme des armes d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, il ne dominera point sur vous, il ne sera point seigneur sur vous, littéralement, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Mes bien-aimés, nous sommes les sujets d'un nouveau roi, le Seigneur Jésus. nous lui offrons nos membres comme arme de justice. Le péché est un dictateur qui a utilisé nos membres comme arme de guerre, dit le texte. Lorsque nous étions sous son autorité, sous sa seigneurie, sous sa domination. Mais Paul dit de la part de Dieu, mais ne continuez pas à livrer vos membres au péché. Vous avez été arrachés à la puissance des ténèbres. Vous avez été transférés dans le royaume du Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1er. Ne continuez pas à livrer vos membres au péché, mais donnez-vous vous-même, et littéralement donnez-vous vous-même une fois pour toutes. Nous avons évoqué un temps grec qui n'existe pas en français, l'aoriste, il est utilisé ici. Donnez-vous vous-même une fois pour toutes, instantanément, définitivement, à Dieu. Est-ce que nous prouvons par notre vie de tous les jours que nous avons changé de royaume? Nous avons été délivrés, nous avons nous dit hier soir, de la condamnation du péché. Nous le redisons ce soir, nous avons été délivrés de la puissance du péché, de l'autorité du péché, de la seigneurie du péché, de la domination du péché. En attendant d'être délivrés, nous le dirons tout à l'heure, de la présence du péché. Mais est-ce que notre vie de tous les jours prouve que nous avons véritablement été délivrés de la seigneurie du péché? Qui est seigneur de notre vie chaque jour? Un commentateur de Romains 6, que j'aime beaucoup, qui est maintenant près du Seigneur, a écrit ceci: « Bien que le péché ne règne plus en nous, il ne nous laissera jamais tranquilles. Nous avons été délivrés du règne du péché sur nous, mais non de ses attaques. Le péché qui ne peut pas être le maître de notre personnalité profonde peut régner dans notre corps mortel si nous le laissons faire. Il transformera les instincts naturels de notre corps en convoitise, c'est-à-dire en désir coupable, nos appétits naturels en complaisance, notre besoin de vêtements et de logements en matérialisme, notre vie sexuelle normale en immoralité. Voilà pourquoi Paul nous demande d'être sur nos gardes pour que nous ne laissions pas le péché régner sur notre corps. Et que de disciples de Jésus-Christ, ici en Martinique comme ailleurs, traînent avec eux des handicaps spirituels, moraux, psychologiques, physiques, énormes. Tout simplement parce qu'ils se sont refusés à la vigilance absolument nécessaire devant ces attaques subtiles du péché pour en quelque sorte essayer de retrouver sa place de seigneurie sur notre vie. Un homme de Dieu a écrit ceci: il faut bien se rendre compte que même si le péché subsiste chez le chrétien, il ne joue plus un rôle dominant. Il existe une différence radicale entre un péché qui survit et un péché qui règne, entre l'homme régénéré qui lutte contre son péché et l'homme irrégénéré qui est tolérant à l'égard du sien. C'est une chose que le péché vive en nous. C'en est une tout autre que nous vivions dans le péché. Et un homme de Dieu des siècles passés décrire le péché toujours présent en nous croyants avec son ferment d'agitation et de corruption. C'est pour cela que nous avons souvent le cœur triste et les yeux humides. Cependant, Christ nous a délivrés du péché. Celui-ci ne règne donc plus sur nous. Nous connaissons les turbulences causées par le péché, mais non sa prédominance. Le péché peut monter sur le trône du cœur et jouer au tyran par telle ou telle action pécheresse, mais il n'y siégera plus jamais en tant que roi. Changement de royaume. Deuxième aspect de notre nouvelle relation avec Christ. Ce sont les versets 15 à 23 de Romains chapitre 6. Nous avons changé de royaume, avons-nous dit. En Christ, nous ne sommes plus sous la seigneurie du péché. Et nous devons donc vivre en tant que tels. Mais nous avons aussi changé de propriété. Et l'un des termes clés qui revient dans ces versets 15 à 23 du chapitre 6, c'est le terme esclave. Nous sommes les esclaves d'un nouveau maître. Nous portons donc de nouveaux fruits. En livrant, nous dit ce texte, nos membres à la justice. Il y a dans ce texte deux manières diamétralement opposées d'utiliser nos membres. Offrez vos corps avec leurs fruits immédiats. Ce texte nous dit que nous pouvons aller d'iniquité en iniquité, c'est-à-dire de violation de la loi de Dieu en violation de la loi de Dieu, en transgression de la pensée de Dieu, jusqu'à la désagrégation et à l'anarchie la plus complète dans nos vies. Mais nous pouvons aussi aller de ce qui est juste aux yeux de Dieu, de la justice, nous dit ce texte, jusqu'à la sainteté, c'est-à-dire jusqu'au résultat de la pratique de ces œuvres justes dans nos vies. Nous avons le choix. Est-ce que tout indique aux puissances célestes, à ceux et celles qui nous entourent, dans notre vie personnelle, conjugale, familial, professionnel, social. Est-ce que tout indique que s'est produit un changement de propriété? J'appartiens désormais à Dieu. Ou est-ce que quand les gens nous regardent, eh bien, finalement, ils se rendent compte que tout en allant au temple évangélique de tel ou tel endroit, eh bien, nous leur ressemblons étrangement. Et à la fin de cette deuxième partie, vous avez ce verset 23 du chapitre 6 qui nous montre le résultat final de nos choix. Car le salaire du péché, la solde du péché, il y a là un terme militaire, c'est la solde qui est payée régulièrement aux soldats. Le péché paye une solde, la mort. Mais Dieu nous fait un don gratuit, littéralement un charisme, un effet, un résultat de la générosité absolument inouïe de Dieu à cause de la croix qui s'est dressée sur le Golgotha. Et ce cadeau inouï, cet effet de sa grâce, s'appelle la vie éternelle. Et puis Paul va passer à un troisième aspect de notre nouvelle relation avec Christ, toujours avec ses conséquences sur l'utilisation de notre corps, Nous avons évoqué le changement de royaume, le changement de propriété, mais il y a aussi un changement d'ordre conjugal. Et ce changement d'ordre conjugal va occuper tout d'abord les 6 premiers versets du chapitre 7. Où Paul va affirmer que nous sommes les épouses d'un nouveau mari. Et que cette nouvelle union avec ce nouveau mari va porter des fruits nouveaux pour Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que là, de la part de Dieu, Paul introduit toute une dimension d'amour et d'intimité dans notre relation avec Dieu. Si nous sommes les épouses d'un nouveau mari, c'est qu'à quelque part, il y a eu rupture dans un ancien mariage. Et ce mariage, nous dit l'apôtre Paul, cela va être d'ailleurs longuement développé dans tout le chapitre 7, ce mariage est un mariage avec la loi de Dieu. Nous avons été mariés, peut-être pendant un certain temps, avec la loi de Dieu. C'est-à-dire que nous avons pensé que nous serions agréables à Dieu en acceptant sur notre vie la seigneurie de la loi de Dieu. Et Monsieur Loi, mon ancien époux, ben c'est quelqu'un de bien. Parce que dans le chapitre 7, au verset 12, il est dit « La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. » C'était donc un mari parfait. Et en fait, c'était là le problème. Il existe comme cela des vies conjugales très problématiques. Lorsque quelqu'un est marié à une personne toujours impeccable. Et qui donc, du matin au soir et du soir au matin, est une sorte de reproche vivant. Qui est toujours en train de vous faire savoir d'une manière ou d'une autre que vous êtes en train de vous tromper. Au point que vous finissez par vous demander si il faut marcher sur la tête ou sur les pieds. Et vous avez comme cela, dans certaines vies conjugales, des hommes et des femmes qui aboutissent dans des centres psychothérapiques parce qu'ils ne peuvent plus supporter d'être liés à un époux ou une épouse tellement impeccable. Ils ne savent plus comment vivre. Et souvent, n'est-ce pas, lorsqu'on cherche Dieu dans notre désir de plaire à Dieu, nous sommes mariés à la loi. Et nous tombons dans ce travers du légalisme en pensant que notre relation avec Dieu dépend uniquement de notre obéissance servile à la loi. Et plus nous essayons d'obéir à la loi, plus nous sommes mal dans notre peau. Et nous soupirons au fond de nous-mêmes en disant « Mais j'aimerais tellement être débarrassé de ce mari. Si seulement je pouvais mettre un peu de poison dans sa soupe. » Mais le problème, c'est que tant que la terre subsistera, la loi de Dieu subsistera. Elle est en bonne santé. Donc nous sommes normalement condamnés à vivre ce mariage terrifiant avec la loi sans pouvoir nous en défaire. Et c'est là que l'apôtre Paul souligne qu'un miracle extraordinaire s'est passé. puisque la loi de Dieu ne peut pas mourir, eh bien, il faut qu'il se passe quelque chose chez nous. Si nous voulons pouvoir nous marier avec quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, nous avons commencé à le découvrir. Quand nous sommes allés au supermarché pour faire nos achats, nous avons rencontré quelqu'un de très gentil qui nous a aidés à porter nos commissions, à les charger dans notre voiture. Mais quelqu'un d'adorable. Et peu à peu, dans notre cœur, se sont éveillés des sentiments qui se sont approfondis vis-à-vis de cet autre homme. Et nous sommes dans cette situation extrêmement difficile. Mais je suis marié avec Monsieur Loi et j'en aime un autre. Et puisque le divorce est impossible, eh bien, il faudrait que je meure. Mais que je ressuscite. Si je meurs, je suis dégagé de mon mari qui s'appelle la loi, n'est-ce pas? Par la mort, on est dégagé de la loi. Et si je ressuscite, eh bien, je peux me marier avec quelqu'un d'autre. Avec cet autre que j'aime de plus en plus. Et le grand message de l'Épître aux Romains, qui est au cœur du salut, c'est cette proclamation que nous avons d'ailleurs vue hier soir. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, je suis mort avec lui. J'ai été uni à lui dans sa mort. J'ai été enseveli. Mais quand il est ressuscité des morts, je suis ressuscité en lui, avec lui. Ça veut dire que le problème est réglé. Si j'accepte par la foi ma mort, mon ensevelissement et ma résurrection avec, en Christ, je peux me marier avec lui. Vous comprenez? Donc, la vie chrétienne authentique, c'est une vie conjugale dans laquelle, à un moment donné, s'est passé un miracle extraordinaire. Je suis mort aux exigences de la loi, comme je suis mort aux exigences du péché. Jésus-Christ est venu accomplir les exigences de la loi en mourant sur la croix. La loi de Dieu me condamnait, Christ a pris la condamnation. Et dans sa mort, je suis moi-même délivré des exigences de la loi. Ça ne veut pas dire qu'à partir de là, j'ai le droit de vivre n'importe comment. Je ne vais plus vivre dans le légalisme. Mais bien sûr, je vais vivre dans une relation dans laquelle je me soumets à la seigneurie de mon nouvel époux. Je ne suis donc pas sans loi. Ce que trop de disciples de Jésus-Christ aujourd'hui pensent, on peut faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Nous avons été graciés. C'est un des grands messages de l'Épître aux Galates. Puisque j'ai été gracié, puisque j'ai été affranchi, puisque j'ai été libéré, allons-y maintenant, défonçons-nous. Et il transforme ce faisant la grâce en dissolution. La grâce devient crasse. Et mes amis, il n'y aura pas dans le ciel d'hommes et de femmes qui auront passé le temps de leur soi-disant vie nouvelle à transformer la grâce en grâce. Non. Si je suis marié avec le Seigneur, je me soumets à la loi du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Donc je ne suis pas sans loi. Je ne suis pas un anarchiste chrétien. Et il y a trop d'anarchistes chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui qui réfutent par leurs actes et leurs pensées la seigneurie de Jésus-Christ sur leur vie. Ils proclament la seigneurie de Christ dans leur chant, dans leur confession de foi, mais ils contredisent cette seigneurie dans leur vie de tous les jours. Et mes amis, on peut tromper un tas de monde sur la terre, mais souvenons-nous, et cela devrait nous angoisser à quelque part, que ça dure un temps. Et que de toute façon, à la lumière du Seigneur, tout cela sera révélé un jour. Mes amis, pardon de le dire, vous ne perdez rien pour attendre à tricher comme ça. Bientôt, la lumière se fera. Et mes amis, il sera trop tard à ce moment-là. On ne plaisante pas avec le Dieu vivant. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu extraordinaire. Quelle vie conjugale merveilleuse il nous offre. Quelle intimité fantastique. Mais attention, nous l'avons dit, il est un Dieu jaloux, il est un feu dévorant, ce sont des flammes éternelles. Et c'est tout ce thème qui va être développé tout au long du chapitre 7, où Paul va évoquer le combat intérieur qui peut être celui du croyant boiteux, au cœur partagé, qui, à un moment donné, va dire, mais je suis le serviteur de deux maîtres. C'est la fin de Romains au chapitre 7. Par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. Je veux observer la loi de Dieu. Mais le problème, c'est que il y a la chair. C'est-à-dire qu'il y a ma nature humaine marquée par le péché. Cet héritage qui est là dans mon corps, cette nature faussée, déchue, avec ses penchants au mal, ses désirs corrompus, ses exigences égoïstes. Et ceux qui me connaissent en soi peu savent que j'aime utiliser cette expression qui n'est pas de moi, mais de la maréchale Booth. La chair, c'est l'hippopotame moi. Et ça, nous le comprenons. L'hippopotame moi. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Ce vieil homme qui nous démange en permanence. Je suis esclave de la loi du péché. Je suis livré moi-même, bien que converti, je suis un prisonnier, impuissant, incapable d'observer la loi. Je suis écartelé. J'ai le désir de suivre le Seigneur. Et il y a comme une sorte de pesanteur qui me pousse dans une autre direction. Et après avoir expliqué cela, Paul dit, mais misérable que je suis, verset 24 du chapitre 7. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Nous sommes toujours dans notre sujet. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui m'affranchira, qui affranchira mon corps de l'esclavage de mes mauvais instincts? Qui? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors s'ouvre ce chapitre 8. Tellement nécessaire, tellement essentiel dans cet épître de Paul aux Romains, qui évoque la puissance de la sanctification. Notre sanctification est impossible si une puissance venant tout droit du ciel ne se déploie pas dans notre personne tout entière. Et cette puissance de la sanctification, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a été présent une seule fois jusqu'ici, dans Romains 5, verset 5. L'amour a été versé, l'amour de Dieu a été versé hors de son cœur, dans notre cœur, n'est-ce pas ? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais maintenant, alors, dans Romains au chapitre 8, nous allons remarquer dans les 16 premiers versets, 16 mentions du mot « esprit ». Et dans la plupart des cas, il s'agit du Saint-Esprit. Et là intervient une nouvelle image. Il est question de deux lois. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de la gravitation, qui est appelée dans Romains 8 la loi du péché et de la mort. J'ai un clou dans ma main, loi de la pesanteur. Mais si mon clou répond à l'appel d'un aimant, qu'est-ce qui se passe? La loi de la pesanteur, la loi de la gravitation, la loi du péché et de la mort est vaincue par une loi supérieure que l'apôtre Paul va appeler la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie qui entre en action plus forte que la première et qui va tenir le clou collé à l'aimant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le clou n'a pas changé. Mais pourtant, ce clou n'est plus le même. Parce que, en quelque sorte, la vie de l'aimant a quelque part passé en lui. Et en fait, la loi de l'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit par lequel Christ habite en moi et qui me tient uni à lui. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, par le Saint-Esprit. Je suis désormais uni à Jésus-Christ, comme ce clou est uni à l'aimant. Et vous savez que si je les laisse pendant un certain temps ensemble, qu'ensuite je les détache, je peux utiliser pendant un court temps le clou, il est devenu aimant à son tour. Mais bien entendu, il aura besoin en permanence de revenir. Vous comprenez? Parce que sinon, effectivement, au bout d'un très court temps, eh bien, ça ne fonctionnera plus. La vie de l'un passe dans l'autre par le Saint-Esprit.